franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les médecins juifs en France.
Département rural, l'Aveyron n'attire plus les jeunes médecins français. Mais il est en train de devenir l'Eldorado pour leurs confrères d'Europe de l'Est. À Rodez, l'hôpital vient d'embaucher 2 docteurs tchèques et 3 roumains, tous expérimentés. Le Conseil de l'Ordre des médecins accueille ses confrères étrangers à bras ouverts, même si cela souligne une certaine faillite du système français.
Aujourd'hui, face à la désertification médicale qui menace, le recours aux praticiens étrangers paraît naturel. Voilà une situation de crise qui, pour une fois, ne nuit pas à l'esprit d'hospitalité. C'était une toute autre affaire dans les années 1930. La sécurité sociale n'existait pas, la demande solvable de soins se réduisait pendant que grandissait le nombre des médecins étrangers, lesquels étaient déjà très souvent des Roumains. Et qui disait Roumain à l'époque sous-entendait Juif. Beaucoup de médecins français voyaient dans ces nouveaux confrères des concurrents. Dès ses premières semaines, la Révolution nationale prit sur ce sujet qui lui paraissait brûlant des mesures discriminatoires. À l'automne 42, rares étaient les praticiens juifs, étrangers et aussi bien nationaux qui gardaient encore la possibilité d'exercer. Ce fut le temps du médecin juif errant. L'Ordre des médecins créé en octobre 40 avait effectué avec diligence le travail d'épuration qui lui était demandé. Maintenu sous une autre direction à la Libération, il lui restait à exprimer ses regrets dès 1997 et à soutenir les enquêtes des historiens et maintenant à accueillir les bras ouverts les médecins roumains. Henri Naoum, bonjour. Alors vous êtes l'historien qu'on aime bien recevoir dans cette émission, celui qui a une passion avant de faire de l'histoire, une profession. Vous étiez chef de service à l'hôpital Beaujon et en même temps que vous continuiez d'exercer vos fonctions, vous avez passé une licence ?
Un doctorat.
Ouais. Et puis commencé à mener une grande enquête qui a abouti à un livre chez l'Harmattan, La médecine française et les Juifs, la période qui vous intéresse est la nôtre, 1930-1945. Qu'est-ce que c'était votre spécialité à Beaujon ?
La radiologie et, comme on dit maintenant, l'imagerie.
Est-ce qu'il y a les mêmes qualités qu'on doit manifester, manipuler quand on est spécialiste de radiologie et historien ?
Bien sûr, il y a le même souci du détail, le même souci d'examiner en détail un dossier et, disons, la même nécessité d'un contact humain. Car, évidemment, en médecine, il faut un contact humain très étroit. Mais j'ai essayé d'avoir la même chose dans mon travail d'historien, c'est-à-dire que j'ai interrogé un certain nombre de gens qui ont connu cette époque-là, qui l'ont vécu.
En même temps, vous avez travaillé sur les archives avec le même souci de l'hospitalité, pour reprendre un mot déjà employé. Pour éclairer la situation, quelques images. Nous sommes dans les années 20, un petit peu avant le début de notre période. C'est un extrait de Knock. Il faut bien sourire un peu parce que ça ne sera pas le cas au long de l'émission.
Croyez-moi, mon cher successeur, vous avez fait une bonne affaire. Aïe ! Vous avez eu la chance de tomber sur un homme qui voulait s'offrir un coup de tête.
Mon mari s'était juré de finir sa carrière dans une grande ville.
C'est grâce à cette toquette que vous avez ma clientèle pour un morceau de pain.
Vous trouvez ?
Ben, c'est l'évidence même.
En tout cas, je n'ai guère marchandé.
Ah, sans les rhumatismes de ma femme, je crois que j'aurais fini par vous dire non.
Madame Parpalais est rhumatisante ?
Oh, hélas !
Y a-t-il beaucoup de rhumatisants dans le pays ?
Oh ! Mais dites, mon cher confrère, qu'il n'y a que des rhumatisants.
Voilà qui me semble d'un grand intérêt.
Parpalais cède sa clientèle, ses brochards, à Knock, qui est Jouvet, dans le film de Lefranc. À cette époque-là, fin des années 20, un peu moins de 30 000 médecins en France. Et il va y avoir, en même temps que la demande solvable diminue, un accroissement pendant les années 30 du nombre des médecins.
Eh oui, Pour revenir un peu en arrière, tout a commencé sous le Second Empire. À ce moment-là, la Roumanie n'était pas encore constituée et le prince de Valachie, qui était francophone et francophile, demande l'aide du gouvernement français pour organiser la médecine dans sa principauté. Le gouvernement français envoie un jeune médecin qui, en effet, organise la médecine, qui obtient pour les étudiants roumains le droit de venir en France terminer leurs études et qui obtient surtout l'équivalence du baccalauréat roumain avec le baccalauréat français.
Si les médecins étrangers sont si nombreux à venir de Roumanie dans les années 30, c'est à cause de ce privilège roumain.
Or, finalement, que se passe-t-il dans ces années 1920-1930 ? La médecine est à peu près stable. On n'a pas encore découvert les antibiotiques et l'endocrinologie est à ses premiers balbutiements. Mais le nombre de médecins augmente considérablement. Pourquoi augmente-t-il ? Première raison, ne voilà-t-il pas qu'il y a des femmes qui veulent faire leur médecine ? Quel scandale, alors que leur tâche est de rester à la maison. Deuxième raison, voilà maintenant que les enfants de fonctionnaires, les enfants de petits commerçants veulent faire leur médecine. Ils auraient mieux fait de faire tout à fait autre chose et de ne pas envahir cette... Et troisième raison essentielle, voilà beaucoup de jeunes étrangers, essentiellement roumains, presque tous juifs, qui viennent en France faire leur médecine et qui pourront exercer en France.
Presque tous juifs, parce que en Roumanie, il était malaisé à un juif d'entrer à l'université. Il n'y avait pas exactement le numerus clausus comme en Pologne ou comme en Hongrie, mais enfin, les petits camarades et les professeurs faisaient sentir à l'étudiant juif qu'il n'avait pas sa place dans les amphithéâtres.
Non, ne faisait pas sentir, c'était bien pire que ça. Il n'y avait pas de numerus clausus officiel, mais comme me l'ont dit un certain nombre de mes interlocuteurs, il y avait un numerus nullus, c'est-à-dire qu'il y avait des étudiants non-juifs qui attendaient les étudiants juifs à la sortie de la faculté et qu'il les rossait, qu'il leur cassait la figure. Si bien que plusieurs des anciens jeunes juifs roumains que j'ai interrogés étaient obligés de partir à la dérobée par la fenêtre. Donc finalement, ils partaient en France, profitant du privilège roumain, et en plus, la réputation de la France, patrie des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, les grands principes de 89, étaient absolument, aujourd'hui, il nous paraît incroyable à ce point-là, dans ces pays balkaniques.
Dans ma famille, nous avions un médecin généraliste qui s'appelait le docteur Samuel, qui avait un accent inimitable et qui me racontait qu'il était ainsi arrivé, sans avoir la nationalité française, à exercer la médecine dans un pays où il était heureux comme Dieu en France. Dans les facultés de médecine au quartier latin, évidemment, la situation s'en trouve parfois empoisonnée. Les jeunes aspirants médecins trouvent qu'il y a trop plein, pléthore d'étrangers. L'un de vos témoins, le futur professeur Minkowski.
L'opposition entre les fachos, les camelots du roi, le maurrassisme et la gauche socialiste, radicale socialiste, se passait dans la rue. Moi, j'appartenais à une association paracommuniste qui s'appelait l'Union fédérale des étudiants et on se cassait vraiment violemment la gueule sur le boulevard Saint-Michel. Et en 1934, dans le pavillon d'anatomie, on s'est battu à coups de morceaux de cadavres. Les droites d'un côté, les gauches de l'autre. On a dépecé les cadavres qui nous servaient à l'anatomie et on s'est battu comme ça. Et puis alors, les premiers mots antisémites ont commencé à ce moment-là.
À Paris, les étudiants en médecine font une grève de protestation contre le trop grand nombre d'étrangers admis à exercer en France. Les étudiants des autres facultés se joignent à eux. Des monomes, beaucoup de bruit, pas d'incident grave.
Voilà, bien entendu, la France aux Français, il y avait aussi des pancartes dehors, les Metex. C'est d'ailleurs au pied d'une de ces pancartes qu'on voit la première photo, sa première apparition publique de François Mitterrand.
Mais ce n'était pas seulement les étudiants. Il faut bien dire que la proportion d'étudiants étrangers, presque tous juifs donc, augmentait régulièrement et que les représentants les plus autorisés de la médecine officielle protestaient vigoureusement contre ce qu'ils appelaient l'invasion Metex, c'est-à-dire les syndicats médicaux, c'est-à-dire les doyens de faculté. Donc finalement, tout ça faisait boule de neige et il y a eu en effet, comme on vient de l'entendre, des manifestations d'étudiants au quartier latin.
Les médecins étaient puissants aussi au Parlement et un certain nombre de dispositions législatives ont été prises
qui obligeait à la naturalisation les médecins juifs étrangers ?
Oui, il y a eu effectivement des lois qui ont été votées en 1933 et 1935, et ces lois supprimaient ce qu'on appelle le privilège roumain. C'est-à-dire que dorénavant, le baccalauréat français était indispensable pour faire ses études de médecine et pour être installé en France. Mais alors, finalement, les étudiants juifs roumains demandaient leur naturalisation. Et à partir de ce moment-là, ils étaient de nationalité française et ils avaient le droit d'exercer en France.
Mais le garde des Sceaux de 38 promet qu'il n'y aura plus de naturalisation pour les étudiants étrangers en médecine ou pour les médecins étrangers nouvellement installés. Puis vient la guerre, la défaite, le règne de Pétain, lequel vit et travaille accompagné d'un secrétaire particulier, d'un confident qui est son médecin personnel. Ici, le maréchal est sorti dans le département, non pas de l'Aveyron, mais du Cantal. Alors, si vous tendez l'oreille, vous allez entendre qu'on lui présente les personnalités d'une nouvelle instance des médecins.
Le docteur Parier, vice-président du conseil départemental et maire d'Allanche.
Ah oui ?
Maire d'Allanche, ah, une commune où vous seriez arrêté, monsieur le maréchal.
Le pays est très beau, n'est-ce pas ?
Très beau, monsieur le maréchal. Le docteur Mézard, conseiller départemental et président du conseil de l'ordre des médecins.
Il y a un médecin pour combien d'habitants ? En haut.
Des dans statistiques Cantal, ont été
oui.
faites.
Il y a 25 000 médecins en France pour 40 millions d'habitants. Et dans le Cantal, nous avons 100 médecins pour 180 000 habitants.
Ça fait donc un médecin pour combien d'habitants ?
Ça fait un médecin pour 1800 habitants.
Ils ne sont pas très bien soignés. Mais... Enfin, j'ai un médecin pour moi tout seul.
C'est même un ancien camarade.
Et il se porte bien. Ton ancien camarade ? Est-ce que vous m'auriez conseillé de le prendre avant ?
Non, je crois que oui, c'est marrant.
Voilà, le médecin personnel, c'est Ménétrel. On ne va pas s'arrêter trop longtemps sur son rôle. Disons que c'était un antisémite ordinaire et qu'il écoutait d'une oreille attentive les doléances de ses confrères qui trouvaient qu'il y avait trop d'étrangers. On parlera plus longuement de l'ordre des médecins dont les représentants ici sont face au maréchal. Mais il faut dire qu'avant même la création de l'ordre des médecins, dès l'été 40, il y a eu des mesures discriminatoires.
Dès l'été 40, c'est-à-dire que déjà en juillet 40, exactement le 22 juillet, a été promulgué un texte disant qu'on va réviser les naturalisations. Donc tous ces jeunes médecins qui s'étaient fait naturaliser dans les années 30 deviendront complètement apatrides. D'autre part, en août 40, on a réorganisé la profession médicale, c'est-à-dire que dorénavant ne pourra exercer la médecine en France qu'un médecin qui est français à titre originaire, c'est-à-dire qui n'a pas été naturalisé. Même si ces jeunes médecins, juifs, roumains, naturalisés, ont fait leur service militaire et ont fait la guerre de 39-40.
Mais précisez bien, professeur Naoum, c'est avant le premier statut des Juifs.
C'est avant le premier statut des Juifs. Alors justement, le statut des Juifs date du 3 octobre 1940. Il a été promulgué le 18 octobre et il prescrit deux choses, beaucoup de choses, mais dont deux choses particulièrement importantes, c'est-à-dire les Juifs n'auront plus le droit dorénavant d'enseigner, c'est-à-dire les professeurs juifs aux facultés de médecine seront exclus des facultés, et d'autre part, ils ne pourront plus participer, faire partie d'une administration publique. C'est-à-dire que les médecins juifs qui font partie de l'assistance publique, soit comme chef de service, soit comme assistant, soit même comme interne ou comme externe, en seront exclus.
Alors, on verra comment les instances nationales et départementales de l'Ordre des médecins ont appliqué ces mesures discriminatoires. Mais une question à laquelle vous ne répondez pas vraiment dans votre livre « La médecine française et les Juifs », que vous évitez même peut-être un peu cet ordre. Il a été créé pour ça ou il existait déjà des projets d'ordre avant l'occupation ?
Alors, il existait des projets d'ordre avant 1939, c'était même l'une des revendications du corps médical français, et l'ordre a été créé pour moraliser la profession. Moraliser la profession, ça voulait dire en pratique également s'occuper de ces médecins juifs qui étaient les pelés, les galeux d'où venait tout le mal, qui finalement dichotomisaient, c'est-à-dire reversaient des honoraires, qui d'autre part étaient de très mauvais médecins, n'y connaissaient absolument rien. Donc finalement, c'était pour ça qu'a été créé le Conseil de l'Ordre. Si bien que sa première tâche en pratique, ça a été d'appliquer les lois et d'exclure ces médecins, entre guillemets, étrangers. Si je dis entre guillemets étrangers, ça voulait dire nés de père français et français à titre originaire.
Il faut bien reconstruire, moraliser sur des fondations solides.
C'était une fois, là-haut sur un toit, un maçon qui chantait sa romance. Ce fait n'a l'air de rien, vous allez voir combien un petit fait peut avoir d'importance. Comme il me reste à vous prouver comment, je vais commencer par le commencement. Un maçon chantait une chanson, là-haut sur le toit d'une maison, et la voix de l'homme s'envola pour se poser par là comme un oiseau sur la voix d'un autre maçon qui reprit la chanson sur le toit voisin de la maison. Et ainsi commença l'unisson de deux maçons et d'une chanson. C'est alors qu'il m'est venu cette idée. Vous n'en ferez que ce que vous voudrez. Si tout le monde chantait comme les maçons, si chacun apportait son moellon, nous rebâtirions notre maison qui deviendrait, bon Dieu, la maison du bon Dieu. Notre chanson serait la plus belle des chansons. Et quand viendrait la belle saison, nous serions des millions de maçons à chanter sous le toit de nos maisons.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Les médecins juifs en France dans les années 1940, maintenant avec Henri Naoum, professeur, ancien chef de service à Beaujon et docteur en histoire, auteur d'un grand livre sur le sujet. 1941, Maurice Chevalier, c'est 1941 aussi la date du second statut des juifs. Peu à peu, les juifs originaires vont être concernés.
Alors, en mars 1941, est constitué le commissariat général aux questions juives, qui est dirigé par Xavier Vallat. Xavier Vallat, c'est ce député qui, en 1936, était monté à la tribune au moment de l'arrivée au pouvoir de Léon Blum et avait dit cette phrase devenue célèbre, « Pour la première fois, c'est un juif qui est chargé de gouverner la France. Ce vieux pays gallo-romain, pour la première fois, va être dirigé par un juif. » Donc, il pense très bien connaître la question juive et il décrète le deuxième statut des juifs et il décrète également... il modifie également le statut de la profession médicale. C'est-à-dire qu'il instaure pour les médecins juifs un pourcentage de 2%, un numerus clausus de 2%.
Alors, on va s'arrêter sur ce chiffre. Mais vous parliez du commissariat général aux questions juives. Il a eu de l'influence et aussi l'Institut d'études juives. Au commissariat général aux questions juives exerçait Montandon, qui faisait des examens ethno-ratio. À Radio Paris, c'était ici un speaker du nom de la ville. Et puis, je vous propose qu'on entende, on est toujours en 1941, quelques extraits des actualités cinématographiques.
Il ne nous reste plus rien. Il ne nous reste plus que la race. C'est dans ce creuset de la race que se fondra la France future, qui regagnera son territoire, qui regagnera son empire, qui regagnera son armée, qui regagnera sa marine, qui regagnera surtout son esprit.
Si les étoiles jaunes s'étaient montrées chez nous il y a 10 ans, on aurait vu clair.
C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol. Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs.
Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin pas tous.
Oh, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue.
À Paris, au palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition « Le Juif et la France ». Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Il prouve combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs.
Juifs nationaux, aussi bien qu'étrangers. Le numerus clausus, c'est 2% de médecins juifs par département, pas au-delà.
Alors justement, c'est très important, 2% par département. Or, il se trouve qu'il y avait beaucoup plus de médecins juifs dans le département de la Seine, dans le département de Seine-et-Oise, dans les Bouches-du-Rhône, que, par exemple, dans le Cantal ou dans l'Aveyron. Mais alors, par exemple, pour prendre un chiffre, dans le département de la Seine, il y avait 1600 à peu près médecins juifs. Et le calcul du numerus clausus autorisait 80 médecins juifs sur ces 1600 à exercer.
Mais qui fait le tri ? Vous avez étudié les archives du Conseil de l'Ordre de la Seine, du Conseil de l'Ordre de la Seine-et-Oise.
Alors, qui fait le tri ? Les conseils de l'Ordre. Alors, au début, les conseils de l'Ordre sont un peu réticents. Quand on lit les comptes rendus, un certain nombre de membres du Conseil de l'Ordre disent « Mais ce n'est pas notre travail. » D'autant plus que ces gens-là, ils les connaissaient bien. Ils étaient français depuis 5 ou 6 ou 10 générations. Et c'était souvent des amis. Ce n'est pas à nous de le faire. Mais le président leur dit, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, que vous soyez d'accord ou pas, il faut appliquer les consignes du gouvernement, il faut appliquer les lois. Donc ils excluent. Et c'est encore plus grave que ça, parce qu'un certain nombre de médecins qui ont fait la guerre de 14-18, qui sont décorés de médecins juifs, sont bénéficiaires de dérogations. Mais ils ne sont pas pris en plus de ces 80. Ils sont à l'intérieur de ces 80. Par exemple, dans la Seine, il y en a environ 150 ou 160 qui ont des dérogations, qui sont dérogataires. Donc, il ne restera plus du tout de place pour personne.
Et c'est comme ça que mon cher docteur Samuel, dans ma banlieue, est devenu un médecin juif errant. Là, vous parlez des médecins en exercice. Mais les étudiants en médecine, témoignage du futur professeur Schwarzenberg.
Quand j'ai voulu m'inscrire à la faculté de médecine en 1942, j'ai dû faire état de ce qu'on appelle mes origines et je n'ai pas fait partie de ce qu'on appelle la liste limitative, c'est-à-dire le numerus clausus. Et le médecin qui, à l'époque, était représentant du Conseil de l'Ordre des médecins, je le cite pour montrer à quel point l'Ordre des médecins n'a pas défendu éventuellement les médecins juifs, m'a fait savoir très correctement que j'étais interdit d'études. Alors je me suis rabattu sur la faculté des lettres, même résultat. Interdit d'études à la fac des lettres. Alors je me suis inscrit à la faculté de droit et j'ai été autorisé. On acceptait pour faire leurs études soit ceux qui avaient fait la guerre, difficile, puisqu'on était tous jeunes, soit ceux dont les pères avaient fait la guerre. Et mon pauvre père, aujourd'hui disparu, s'est excusé auprès de moi parce qu'il s'était engagé, mais il était trop jeune pendant la guerre de 14 pour faire la guerre. Et le fait que de forcer un père à s'excuser devant son fils montre à quel point ce régime était l'image même de la honte.
Et là, ça se jouait année par année.
Alors justement, là, le numerus clausus était de 3%, mais pas 3% sur l'ensemble des années de médecine, mais année par année. Si bien qu'un étudiant donné pouvait être admis en première année, réussir à ses examens de fin de première année, mais ne pas être admis en deuxième année. Donc, en effet, la plupart d'entre eux ont fait, comme a fait Léon Schwarzenberg, ont fait d'autres études de sciences ou de philosophie ou de mathématiques.
Le futur professeur Minkowski, qu'on rencontre souvent dans votre livre, lui a pu continuer ses études. Il portait l'étoile jaune, il craignait sortant de l'hôpital d'être raflé. Le patron le dépasse en voiture. Et vous vous souvenez de ce que vous racontez ?
Oui, très bien. C'était le jour, m'a raconté Minkowski, que j'ai interviewé longuement. C'était le jour de la rafle du Vel'Div, m'a-t-il dit. Et il rencontre son patron en voiture. Il lui dit, monsieur, est-ce que vous pourriez m'emmener ? Et le patron, qui pourtant était résistant, hein, dit, écoutez, vous allez bien vous débrouiller tout seul. Je ne m'occupe jamais de politique.
Il y avait cependant une souricière. C'était l'hôpital Rothschild. Alors là, il n'y avait que des médecins juifs.
Alors oui, l'hôpital Rothschild était d'abord les médecins juifs exclus de l'assistance publique ont été admis à exercer à l'hôpital Rothschild. Et d'autre part, à un moment donné, l'assistance publique, c'est-à-dire l'ensemble des hôpitaux de Paris, a reçu consigne d'exclure tous les malades juifs, quel que soit leur état. Par conséquent, l'hôpital Rothschild, les malades étaient juifs, les médecins étaient juifs. Et c'était un véritable camp de concentration, parce qu'on mettait à l'hôpital Rothschild les personnes qui étaient à Drancy et qui étaient en somme trop malades pour être déportées. Donc on les hospitalisait à l'hôpital Rothschild, mais à un moment donné, il fallait bien, d'accord, les médecins faisaient durer le plus longtemps possible des suites d'appendicite, mais à un moment donné, il fallait bien les ramener à Drancy pour qu'ils soient déportés. Mais quand ça n'allait pas assez vite, il y avait des rafles.
Alors rafles, déportation, nécessité de faire des certificats de complaisance, aide aux enfants, le jeune Minkowski s'y est beaucoup consacré, et puis aide aux blessés qui pouvaient venir des maquis et de la résistance dans les autres hôpitaux. Avant de parler de la résistance médicale, voici dans le vieux fusil ce qui se passait dans un hôpital du centre de la France, avec un médecin résistant qui dit « Moi, je ne fais pas de politique. »
Bougez pas, ça servira à rien.
Vous n'aimez pas mes visites, on dirait.
Il n'y a que des malades ici.
Je sais, des malades communistes. Des malades saboteurs, même.
Chef, on l'a trouvé.
Il m'a tué deux miliciens.
Je ne fais pas de politique.
C'est ce que disent les lâches, dans les périodes graves.
Je ne fais pas de politique. Je soigne les blessés.
Si vous n'étiez pas chirurgien, vous savez ce qui arriverait? Je vous embarquerais à la Gestapo allemande et vous seriez fusillé. Il y a longtemps que je vous suis. Vous avez une famille, une femme, une fille, dans leur propre intérêt. Surveillez-vous.
Non. Ils vont sûrement revenir.
Sûrement.
Mais alors, le blessé du poumon, lequel?
Celui qui a fait sauter le train de Paris.
Ah, oui, celui-là. Encore un héros. Comment ça m'emmerde, ces héros? Mettez-le à la cave à côté de la chaufferie.
Il est intransportable.
Il est transportable ou alors vous savez pas ce que vous voulez? S'ils reviennent, ils le prennent, ils le tuent. Puis nous, Yukov, démerdez-vous, bon Dieu!
Les médecins juifs, ils ne pouvaient plus exercer dans les hôpitaux. Fin 42, plus personne, pratiquement, ne pouvait exercer parmi eux. Alors c'était soit lutter contre l'inaction, soit entrer dans l'action.
Alors, beaucoup de médecins juifs, effectivement, sont entrés dans la résistance d'une manière ou d'une autre. Les plus jeunes ont traversé les Pyrénées, sont arrivés au Maroc, en Angleterre d'abord, au Maroc ensuite, et se sont engagés chez De Gaulle. Ceux qui étaient un petit peu plus vieux ont fait partie de la résistance en France, et ils tenaient beaucoup à résister en tant que Français et non pas en tant que Juifs. Ils étaient scandalisés en tant que Français d'être l'objet de mesures discriminatoires.
Exemple Robert Debré, cité souvent.
Exemple Robert Debré, cité souvent, mais il y en a eu de très nombreux autres. Et d'autre part, il faut dire aussi que l'aide de la population française a été extrêmement importante. Finalement, un point important pour élargir au-delà des médecins, un point important... Un quart seulement des Juifs de France, quand je dis seulement, je m'excuse de dire seulement, un quart seulement des Juifs de France ont été déportés. Et cette proportion est très différente de celle qu'elle a été dans d'autres pays, en Hongrie, en Autriche, en Tchécoslovaquie.
Après la libération, où l'ordre des médecins s'est un peu racheté, qu'est-ce qui s'est passé au moment du retour? Imaginez-vous dans un hôpital... L'accueil des collègues n'est pas toujours enthousiaste parce que les places ont été prises.
L'accueil des collègues n'a pas toujours été enthousiaste. On m'a raconté souvent que un tel collègue a dit « Ah bon, c'est vous, vous êtes donc revenu, vous n'avez pas été déporté ?» Et ce n'était pas du tout avec un air de satisfaction. D'autre part, les médecins ont retrouvé leur poste, mais ont essayé de retrouver leur poste parce que leur cabinet avait été occupé par d'autres locataires et leur poste hospitalier était occupé par quelqu'un d'autres qui y avaient été titularisés.
Quant à l'ordre, eh bien, il a été maintenu, renouvelé en septembre 1945 et puis une trentaine d'années après, en 1997.
Pour reprendre les mots de son communiqué, l'ordre des médecins fait part de ses regrets et désavoue avec gravité et humilité les actes dont ont été victimes les praticiens juifs sous le régime de Vichy Écoutez les précisions du président de l'ordre, Bernard Glorion.
Les circonstances récentes, et en particulier depuis la déclaration du président de la République en 1995 à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv, avaient rappelé quand même qu'il était peut-être nécessaire que nous nous penchions sur notre passé au moment de l'occupation. J'ai estimé que vis-à-vis de la communauté des médecins juifs en particulier qui ont eu à souffrir de ces mesures, il faut que nous ayons une attitude de regret et surtout une volonté de faire la vérité sur ces faits qui sont maintenant gravés dans l'histoire, mais que nous ne voudrions plus jamais voir.
L'Ordre des médecins qui ne vous a pas empêché, loin de là, d'accéder à ses archives, la médecine française et les juifs de 30 à 45 aux éditions de l'Harmattan. C'est un livre du professeur Naoum que je remercie. Comment les médecins juifs ont-ils survécu tout à l'heure chez Mathieu Vidard dans un instant? Comment survivre aux médecins? Vous allez écouter avec attention Jacques Sigal, Jean-Philippe, Jeanne Defarre, Guérid, équipe de réalisation et de technique. Il est 14h, vous écoutez France Inter.